une bonne partie de la cassette demeurant encore disponible, j'en profite pour vous conter la grande évasion. Par le récit qui va suivre, vous découvrirez comment 93 prisonniers de guerre français de la guerre 39-45 s'évadèrent d'un commando disciplinaire et réalisèrent ainsi la plus grande tentative d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Je vous raconte celle-ci d'après le récit que me fit mon frère Georges, qui en fut un des acteurs. Je me réfère également à deux autres témoignages, celui d'un résistant polonais de rencontre et celui d'un autre évadé qui échappa miraculeusement à la sauvagerie allemande. Au printemps de cette année 1942, les Allemands décident de transférer les prisonniers de guerre français et belges récidivistes de l'évasion au camp disciplinaire de Ravaruchka, en Ukraine. Ce sont 25 à 30 000 hommes qui arrivent dans ce camp pour être ensuite répartis dans les commandos de la région. Dans ce secteur, le feu est ouvert à vue sur toute personne suspecte et tout militaire ennemi capturé est immédiatement passé par les armes. C'est la Todeszone, la zone de mort. Voilà les conditions dans lesquelles mon frère Georges parvient en juillet 1942 au commando de Świerczyniec, près du confluent des rivières Zan et Tanef, à 60 km au sud de Lublin, entre les camps de Majdanek et de Belzec, camp où les Allemands peuvent exterminer 20 000 personnes par jour. Imaginez un peu le climat. Les prisonniers de Świerczyniec sont employés à casser des cailloux. À peine arrivés, le creusement d'un tunnel est envisagé. Cela ne pose guère problème insurmontable à Georges, ingénieur des ponts, ni à quelques-uns de ses camarades, qui ne sont autres que des mineurs chimis. Il faudra creuser sur une longueur de 15 mètres environ. Le boyau partira de dessous leur baraque, passera sous les barbelés, sous le chemin de ronde, pour déboucher au-delà, sous une baraque désaffectée située hors du camp. Un coffrage est nécessaire, car le terrain est assez sablonneux. Le bois de lit est utilisé à cet effet. La coupe transversale du tunnel a la forme d'un trapèze, dont la grande base se trouve placée en haut. La terre extraite est répartie sous la baraque. 25 hommes sont attelés à cette besogne, qui dure une quinzaine de jours. Le travail terminé, dans la nuit du 13 au 14 août, nos 25 hommes prennent le chemin de la forêt polonaise, imité par 68 camarades qui ne peuvent résister à semblable occasion. Ce sont donc 93 hommes qui, par petits groupes, tentent la belle. À l'appel du matin, les Allemands n'en croient pas leurs yeux. Ils ne découvrent le souterrain que vers 11 heures. Georges fait équipe avec Paul Le Borgne de Quimperlé, Jean Le Rouge de Douarnenez, Le Goff, un autre breton de Rouen, et Verdier, un parisien. Ils ont Budapest comme objectif. Au cours de leur deuxième jour de marche, tandis que dans la forêt, sur un feu de bois, ils cuisent quelques pommes de terre grappillées par là, la fumée de leur feu est repérée au-dessus des sapins par un garde forestier polonais. Celui-ci alerte son chef immédiat dans la résistance polonaise. Je vous livre ce qu'écrira plus tard ce chef que Georges retrouvera après-guerre et que je vous ferai découvrir plus loin dans ce récit. Le 15 août 1942, à l'aube. Je dors dans ma cabane, caché dans les forêts situées dans la fourche des rivières Anne et Tanef, au nord de la petite ville d'Oulanov. Oulanov était jadis centre de bateliers qui procédait au flottage du bois jusqu'à la mer Baltique, par le Zan et la Vistule. Soudain, un ami garde forestier frappe à ma fenêtre et murmure « Dans le secteur 5 du bois, j'ai vu hier soir quelques soldats étrangers. J'ai entendu leur voix, mais je ne connais pas leur langue. Voulez-vous qu'on y aille ?»« Bien sûr. » En quelques minutes, nous sommes en route. Les 6 kilomètres de distance sont vite couverts. Si ce sont des évadés, ils peuvent facilement tomber entre les mains des Allemands. La rivière Zahn est gardée. D'importants postes de pacification, entre guillemets, composés de la racaille internationale, groupés sous le signe de la Croix Gammée et de la SS, sont situés à proximité, donc pas de temps à perdre. Au-dessus d'un fourré de sapins, où le sanglier aurait du mal à pénétrer, et au bord d'une enclave, où le garde planta ses pommes de terre, un soupçon de fumée s'élève. Je laisse le garde et rampe seul avec précaution dans la direction du camp supposé. J'entends une conversation menée à mi-voix. Je m'approche encore et, quelle surprise, c'est le français qu'il parle. J'ignorais l'existence du commando pénitentiaire français dans cette région. J'approche encore de quelques mètres et je vois 5 soldats en uniforme kaki. Je ne connaissais que l'uniforme bleu horizon français. Ils sont accroupis autour d'un petit feu où chauffe une boîte en fer blanc. Je me lève d'un bond et dis à haute voix « Eh ben les gars, ça va ?» Je vois les regards méfiants des 5 pioupiou. Alors, je me présente. Ingénieur polonais, ex-étudiant de l'université de Liège, condamné par l'ennemi depuis 1 an et demi au bois, travaille dans la région comme forestier. Je montre ma carte de travail allemande. Un des soldats la regarde et l'examine, puis fait une remarque. « Alors, vous portez un faux nom ?»« Mais bien sûr que je réponds. » La glace fond. Je fais venir et leur présente le garde. À leur tour, les 5 se présentent. 2 d'entre eux sont de Paris, les 3 autres de Bretagne. Évadés du camp disciplinaire de Svitriniec. Second jour en fuite, sans ressources, sans moyens. Un d'eux a le pied écorché. Ils sont bien décidés d'atteindre Budapest, où il y a encore un consulat français, et de là, retourner en France. Ils me racontent leur début de captivité, après la chute de la ligne Maginot, des mots graves, pleins d'amertume. Ensuite, les stalacs et les évasions successives et malchanceuses qui ont abouti au camp disciplinaire de Tchersignac. Là, un régime intenable, puis une évasion massive. Plusieurs de leurs camarades ont dû être mitraillés. Les représailles assurément étaient atroces envers les repris. La poursuite dure sans aucun doute. Je juge la situation bien difficile, pas de temps à perdre. Mais la continuation de l'évasion est impossible sans déguisement. Mes évadés se trouvent à 50 kilomètres seulement de Svirsignac. La région est contrôlée par un fort détachement SS international, spécialement entraîné pour la pacification. Les maquisards polonais ont trop inquiété les autorités des occupants ces derniers temps. Je consulte mon plan avec mes nouveaux amis. Moi et les gardes, nous apporterons ce soir l'événement civil et quelques outils de bûcheron. Moi-même, je leur ferai l'itinéraire jusqu'à Budapest, par la languette du pays slovaque, qui sépare la Pologne de la Hongrie. Je préparerai aussi un petit dictionnaire de conversation franco-polonaise pour pouvoir se faire comprendre par la population des villages. En plus, des vivres, des médicaments et de quoi coudre. Rendez-vous à la même place avant le coucher du soleil. Le garde me quitte pour aller au village, essayer d'y trouver l'événement civil. Moi-même, je cherche secours chez la famille d'un forestier et dans mes maigres ressources. Au coucher de soleil, nous nous retrouvons tous. Mes nouveaux amis français ne se possèdent pas de joie. À la vue des pauvres cadeaux que nous leur apportons, ils se comportent comme des enfants sous l'arbre de Noël. De ma vie, je n'ai entendu d'aussi chaleureux remerciements. Le petit groupe, déguisé en bûcheron, ne paraît pas suspect à première vue. Le soir tombe. Il est temps de se quitter. Les derniers rayons de soleil éclairent les troncs rouges des pins qui émergent du fourré, voilés déjà par l'obscurité. La forêt est tranquille. C'est le moment quand les oiseaux du jour ont trouvé déjà leur abri pour la nuit et où ceux de la nuit n'ont pas encore quitté le leur. Ils se taisent tous. Ce court instant où le vent même ne souffle plus, nous l'appelions dans le temps la prière de la forêt. En ce moment du grand silence solennel, je prononce les mots d'adieu, d'encouragement et d'espoir. Nous sommes proches comme des frères. On s'embrasse. Les accolades accompagnent les derniers conseils. Que Dieu vous bénisse. Puis mon « Vive la France !» suivi du « Vive la Pologne !» du petit groupe d'amis. Les cinq braves, accompagnés par les gardes, disparaissent dans les ténèbres. Ils vont passer la rivière Zan en bas, préparée pour eux. L'autre bord est gardé par les Allemands, mais les sentinelles y passent rarement. Je reste seul, le cœur serré. Arriveront-ils? L'auteur de ce récit, dont vous avez pu apprécier le français, est le comte Ignace Potocki. Ouvrons ici une parenthèse. Les Potocki appartiennent à une des branches de la famille royale polonaise. Le nom Potocki figure dans les dictionnaires et les historiens le connaissent bien. C'est par exemple celui d'un ancien chef du Parlement polonais, co-auteur de la Constitution du 3 mai 1791, d'inspiration démocratique, libérant ce que l'on appelait à l'époque le tiers-État. Cet homme était le trisaïeul d'Ignace et il se prénommait aussi Ignace. En 1870, où la partie méridionale de la Pologne était partie intégrante de l'Empire d'Autriche, on trouve encore un Alfred Potocki, premier ministre de l'empereur François-Joseph Ier. Mais revenons à notre maquisard, Ignace Potocki. En 1972, il pouvait porter sur sa carte de visite les titres suivants. Ingénieur, docteur en service technique, ex-directeur technique et géologue en chef des stations thermales de Pologne. Pendant la guerre, dès 1941, il fut contraint de prendre le maquis jusqu'en janvier 1945, date de sa libération par l'armée du maréchal Konieff, armée qui allait également me libérer le 23 avril 1945, je me trouvais alors en Saxe. Mais vous êtes certainement curieux de savoir comment Georges et Ignace Potocki se retrouvèrent 30 ans après. Eh bien, voilà. La paix revenue, Georges chercha vainement la trace de son ami d'un jour. Celui-ci aussi, qui n'avait pas oublié, lança un appel en 1947 à la radiodiffusion française, mais sans plus de succès. Or, voilà qu'en novembre 1972, Georges, directeur du port de pêche de Lorient, parle de son aventure à des fonctionnaires des pêches polonais venus de Zbigniew et en visite à Lorient. Il propose à Georges de l'aider à retrouver Potocki. Dès lors, les choses ne traînent pas. Une lettre de Varsovie, datée du 13 décembre 1972, parvient à Georges. Ce sont les retrouvailles. En septembre 1973, Ignace Potocki et sa femme arrivent à Lorient. L'année suivante, Georges et sa femme partent en Pologne pour retrouver leurs amis et les lieux de leur rencontre du 15 août 1942. Ils retrouvent même le garde forestier qui découvrit les cinq pioupiou autour de leur gamelle de pommes de terre. Fermons la parenthèse. Revenons à Georges et à ses compagnons en fuite vers Budapest. Ils marchent de nuit encore dans une région marécageuse, mais en voulant se ravitailler dans une ferme, Georges et le borgne sont capturés par des gardes qui pourchassent des juifs évadés. À distance, leurs trois camarades assistent à leur arrestation. Ceux-ci ne seront pas plus heureux, car deux nuits après, ils seront également repris pour n'avoir su éviter un village. Georges et le borgne sont emprisonnés dans une caserne. Grâce à une lettre de prisonnier que le borgne porte sur lui, ils échappent à la mort. Le lendemain matin, alors qu'ils se trouvent au lavabo, devant une fenêtre ouverte, Georges s'échappe par cette fenêtre et se cache immédiatement dans un tas de bois, où il demeure toute la journée, attendant Paul le borgne. Celui-ci, à cause de sa tenue vestimentaire, hésite à faire le saut. La nuit venue, Georges quitte sa cachette et, après deux jours de marche, il atteint la Slovaquie, où il est de nouveau arrêté par un gendarme. Ramené à Ravarushka, il se glisse en surnombre dans un convoi à destination de l'Allemagne, 8 jours avant que je n'arrive dans ce camp. On ne connut jamais le bilan exact de cette grande évasion. Ce qui se passait dans cette région à cette époque était si flou. N'étions-nous pas aux portes de l'enfer? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moins 3 hommes connurent la mort. Jean Larère, Victor Conan, de Pommery-le-Vicomte dans les Côtes-du-Nord, et Pierre Vandenbosch. Ces 2 derniers furent assassinés plusieurs heures après avoir été repris. Leur compagnon d'évasion, Jean Poutrel, qui put miraculeusement échapper aux assassins, fait le récit des derniers moments de ses 2 camarades. Je vous lis ce témoignage pour terminer ce propos. 2 soldats, sentinelles du camp, prirent nos plaques et nos couteaux. L'un d'eux déchargea 5 ou 6 fois en l'air pour avertir ses collègues et 2 autres sentinelles qui suivaient le haut du ravin arrivèrent, ce qui mettait à 4 le nombre des sentinelles. Pierrot et Conan s'étaient assis. Seul je restais debout sur la pente, à 1 pas environ derrière eux et sur le côté. Puis nous parlâmes un peu. J'étais le seul à comprendre assez bien l'allemand, ayant étudié cette langue à l'école. Les soldats nous demandaient pourquoi nous nous étions évadés. Ils disaient que nous étions fous. L'un d'eux, le caporal, disait toujours « Maintenant, c'est la mort ». Je comprenais bien ces paroles, mais je ne les traduisais pas à mes compagnons, car je ne pouvais croire que cela fût vrai. Mais Victor Conan, à force d'entendre les mêmes mots, finit par comprendre lui aussi, et aussitôt, il se mit à protester, disant que c'était impossible. Pierrot, à son tour, se mit dans la conversation, mais ce fut sans résultat. Le caporal avait armé son fusil. Il y eut une petite discussion entre les sentinelles. Deux d'entre elles disaient qu'il fallait nous ramener à l'adjudant. Or, le caporal nous disait que c'était l'ordre de l'adjudant de nous tuer. Et il se fit obéir des deux autres. Quant au quatrième, il se borna à demander si on nous tuait là ou en haut du ravin. Ce à quoi le soldat répondit, « Ils giseront là ». J'emploie ce verbe, qui est celui qui se rapproche le plus du verbe allemand « liegen », être placé dans la position couchée. Puis, tandis que les trois soldats nous tenaient en respect, l'arme sous le bras, le caporal mettait en joue Victor Conan, qui continuait à protester et, après avoir longuement visé, il tira. Au coup de fusil, j'eus un sursaut pour fuir, mais les trois autres ramenèrent leurs fusils dans ma direction, et je restai immobile. Puis, ce fut au tour de Pierrot d'être mis en joue. Lui aussi parla jusqu'au bout, et, quand le caporal tira, je bondis à l'escalade du ravin. Les trois autres, surpris, tirèrent, mais avec l'arme sous le bras, ils tirèrent juste en dessous de moi. Arrivé en haut du ravin, j'étais caché par les buissons qui atteignaient la hauteur d'un homme. J'essuyai un quatrième coup de feu qui ne m'atteint pas. C'était le caporal qui, après avoir rechargé son fusil, tirait après moi. Une fois en haut, j'arrivais à dépister mes poursuivants et à m'enfuir. Voilà le récit de Jean Poutrel. En 1974, lors de son voyage en Pologne, Georges et ses amis Potocki se recueilleront devant la tombe des deux Français assassinés, Pierre Van den Bosch et Victor Conan. Comme les habitants du secteur se figuraient entretenir la tombe de deux prisonniers de guerre français écrasés par des troncs d'arbres qu'ils manipulaient, Georges s'empressa de leur apprendre la vérité sur cet assassinat. Voyez-vous, en 1942, les bourreaux tentaient déjà de falsifier l'histoire. Camarades d'infortune, peut-être rencontrés dans les geôles allemandes, dormez, que la terre, slave ou germanique, vous soit légère.